devrait bientôt disparaître. De l'autre, il y a le réseau IP qui passe par Internet. Ce qui a dysfonctionné jeudi 3, c'est la plateforme qui fait le lien entre les deux. Orange a préféré taire le nom de l'entreprise chargée de fournir ce logiciel. L'enquête interne continue tout de même pour déterminer précisément sa responsabilité dans la panne. Parce qu'évidemment, elle ne vient pas de nulle part. Depuis mai, Orange fait des opérations pour augmenter le nombre d'appels qui peuvent être traités, justement en laissant plus de place au réseau par Internet. Les numéros d'urgence ont été beaucoup plus appelés. Il suffit de voir les chiffres de cette demi-journée de panne. En 12 heures, c'est 107 000 personnes qui ont essayé de les contacter.
Les internationaux de France de tennis, à présent la terre battue de Roland-Garros, la finale dame.
Radio G. 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5, intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9,
intitulé espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Oh, et si j'étais riche? Oh, et si j'étais riche? Aide-moi!
Mercedes noire, en pauvre, se dit carte orange. Monsieur riche vient de se faire arrêter par des messieurs pauvres en uniforme. Il roulait à 110 km/h sur une route départementale. Les gendarmes lui demandent ses papiers. Monsieur riche s'exécute. Il reconnaît qu'il roulait un peu vite, mais sa Mercedes est équipée pour la vitesse. Il a un ABS, un EPS, un PCM, une suspension active ABS et un régulateur de vitesse et de distance intelligent pour deux. Enfin, toute une technologie qui lui permet de faire le con sur la route sans risque. Il fait remarquer aux gendarmes qu'on est plus dangereux en roulant lentement avec une voiture de petite cylindrée qu'en roulant vite avec une Mercedes. Les gendarmes qui ont des voitures de petite cylindrée ne semblent pas l'entendre. L'un d'eux commence à rédiger le procès-verbal. Monsieur Riche propose un gros chèque pour les orphelins de la gendarmerie. Le gendarme prend le chèque, remercie Monsieur Riche de la part des orphelins et continue à rédiger le procès-verbal. Monsieur Riche parle alors de ses amis haut placés. Il a un beau-frère député. Le gendarme continue à écrire. Monsieur Riche ronge son frein. Il se sent obligé d'être poli avec des gens qui gagnent moins bien leur vie que lui. Il a un fort sentiment d'injustice. La révolte gronde en lui. Il a envie de leur dire à ces pauvres en uniforme qu'ils gagnent au moins 10 fois plus qu'eux. Enfin, il se raisonne, il signe le procès verbal, il reconnaît les faits, il ne dit plus rien. Il part, écœuré. Ah, si les riches sont punis comme tout le monde, ça vous dégoûte d'être riche. Invitation en pauvre se dit convocation. Chaque matin, Madame Pauvre adore ouvrir sa boîte aux lettres à cause de toutes les publicités en couleur. Il y a toujours des surprises et des cadeaux. Elle les lit toutes et elle découpe soigneusement les bons d'achat. Aujourd'hui, à l'occasion de la semaine alsacienne, le supermarché lui offre un bon de 1 euro à valoir sur l'achat de 2 boîtes de choucroute. Autre surprise, elle a été sélectionnée pour le grand jeu concours. Si le numéro inscrit sur le bon est tiré au sort, elle peut gagner un week-end à Strasbourg. Sur le bon, il y a une photo en couleur de la cathédrale de Strasbourg. Madame pauvre se met à rêver. Elle est habillée en alsacienne avec une coiffe. Très haut dans le ciel, sur le clocher de la cathédrale, elle regarde la ville à ses pieds. Elle donne du pain à des cigognes qui volent autour d'elle et lui disent « Danke schön ». Le même jour, dans sa boîte, Madame Rich a trouvé une lettre de Boston et de son fils Richard qui fait un stage au Massachusetts Institute of Technology. Et comme d'habitude, des invitations. Elle est invitée à venir essayer le nouveau cabriolet Mercedes. Elle est invitée au vernissage d'une exposition des dessins de Balthus. Elle est invitée à un défilé de mode. Au fond de sa boîte aux lettres, Madame Pauvre aussi a une invitation. Elle est invitée à se présenter au commissariat avec son fils Kevin pour une affaire le concernant.
Chambre d'amis. En pauvre se dit canapé convertible. Monsieur Pauvre a beaucoup d'amis, pauvres comme lui, mais pas de chambre d'amis. Quand ses amis restent dormir, on ouvre le canapé convertible. Monsieur Nouveau Riche n'a pas beaucoup d'amis, mais beaucoup de chambres d'amis. Les chambres d'amis de Monsieur Nouveau Riche sont somptueuses et souvent Louis XV. Les meubles sont en bois de rose verni, les rideaux en satin crème, les lits à baldaquin. Un home cinéma est caché derrière un paravent chinois. La salle de bain attenante est en marbre couleur parme. La baignoire équipée en balnéothérapie a des pattes de griffon. Le lavabo est une coquille Saint-Jacques en pierre reconstituée et les robinets sont dorés à la feuille. Il paraît qu'on dort parfois très mal dans ces chambres. Certains invités passent leur nuit, calculette à la main, à chiffrer le prix de tout ce luxe. Le résultat est si exorbitant qu'après, ils n'arrivent plus à dormir. Comme Louis XIV, qui a très mal dormi chez son ami Fouquet, dans son trop somptueux château. Le lendemain, les invités sont de très méchante humeur. Ils décident souvent d'écourter le séjour. Ils ne reviendront pas. Madame Nouveau-Riche demande à Madame Pauvre de changer les draps dans l'attente de nouveaux amis. Chez Monsieur Pauvre, les amis ont peut-être mal aux reins quand ils se lèvent, mais ils ont tellement rigolé hier soir, ils reviendront. Rat gourmet, en pauvre, se dit rat d'égout. Les rats très intelligents préfèrent les poubelles des riches. Les rats moins intelligents préfèrent les poubelles des pauvres. Les rats très intelligents s'arrangent pour visiter les poubelles des riches avant que les pauvres ne soient passés. Ils y trouvent de tout, des menus bien équilibrés et souvent bio. En plus, c'est très varié, ça change tous les jours. Un jour du gigot, le lendemain du filet de bœuf, le vendredi toujours des poissons fins et très frais, du turbo, de la lotte, du crabe, des légumes, des fruits. Au fond des bouteilles, il reste de très grands vins millésimés et quelquefois du champagne. Les rats qui reviennent d'une virée dans les poubelles des riches sont un peu pompettes. Ils marchent plus droit, ils parlent très fort et rient à trop pour des bêtises. Dans les poubelles des riches, il y a en plus de la littérature, des vieux téléramas qu'ils dévorent avant de s'endormir. Quand les riches sont partis en vacances, les rats ont intérêt à ne pas être difficiles. Ils doivent se rabattre sur les poubelles des pauvres qui ne vont pas en vacances. Il n'y a pas grand-chose à manger parce que les pauvres finissent toujours leur assiette. En plus, ils risquent de se couper le museau en allant lécher les fonds de boîtes de conserve. Au point de vue de lecture, c'est pas mieux. Ils n'arrivent pas à terminer les catalogues de la redoute.
Souliers vernis. En pauvre, se dit Godas. Le pauvre n'est pas verni, ses pompes non plus. Les chaussures du pauvre n'ont pas la vie belle, elles sont toujours sur la brèche. Elles font les 3-8 sans jamais un jour de congé. Elles sortent par tous les temps, elles n'ont jamais de repos, même pas la nuit, parce que souvent le pauvre dort avec ses chaussures qu'il a peur de se faire voler. Elles sont mal nourries, mal entretenues, on ne les fait jamais briller. Le riche est verni, ses souliers aussi. Les chaussures du riche ont plus de chance. D'abord, elles ont beaucoup de temps libre. Elles ne travaillent pas tous les jours. Le riche a un nombre impressionnant de chaussures. Il en change tous les matins, ce qui fait à chacune de nombreux jours de congé. Leurs conditions de travail sont très agréables. Elles glissent sur des parquets cirés ou elles s'enfoncent dans des moquettes épaisses. Les vernies sont les plus vernies. Elles ne travaillent que le soir, elles dansent et boivent du champagne. Elles ne travaillent jamais le lendemain et peuvent faire la grasse matinée. On les nourrit généreusement avec des crèmes à la cire d'abeille. La seule ombre au tableau, c'est la fin de leur vie. Alors qu'elles pourraient profiter d'une retraite heureuse, il leur arrive le pire. On les donne aux pauvres. Elles se font enfiler par des pieds à la propreté souvent douteuse. Elles sont vite éculées. Elles meurent très rapidement de honte. Chic en pauvre se dit toc. Il est sain que le pauvre reste pauvre et que le riche reste riche, déclare Madame Riche. Chacun a sa place. Cela est dans la nature des choses. Comme le riche qui devient pauvre, le pauvre qui devient riche n'est jamais pleinement satisfait. Le pire, c'est le pauvre qui devient riche. Son comportement est souvent ignoble avec ses anciens comparses les pauvres. On l'appelle Monsieur Nouveau Riche. Il conserve les bas instincts du pauvre et garde ses mauvaises habitudes. S'il vous invite chez lui, vous avez intérêt à dormir avec vos chaussures. Il serait capable, pendant la nuit, de vous les piquer. Le nouveau riche a le sentiment désagréable de ne pas se sentir à sa place. Il perd ses amis pauvres et ne se fait pas d'amis chez les riches. Son organisme rudimentaire ne lui permet pas de goûter pleinement la subtilité des plaisirs que la richesse met désormais à sa portée. Au champagne, il préférera toujours le mousseux, aux asperges, les poireaux. Quand il est invité chez les riches, les repas sont souvent des supplices. Il ne sait pas choisir parmi toutes les sortes de couverts disposés à côté de son assiette. Il se retrouve avec un couteau à pamplemousse pour couper sa viande. Même bien habillé, Monsieur Nouveau Riche n'est jamais élégant. Il a l'air en dimanche. Il confond chic et toc. Sa morphologie s'accommode mal des vêtements à la mode. Les vestes près du corps mettent en évidence son tour de taille. Les cravates en soie étranglent son cou de taureau. Dans ses escarpins trop étroits, ses gros pieds demandent grâce. Sa peau épaisse et grumeleuse est insensible au froufrou et à la caresse de la soie. Sans vouloir le dire, il regrette les caleçons qui grattent. Alors qu'il était un honnête joueur de belote, il se ridiculise en jouant au bridge. Alors qu'il était habile à la pétanque, il est nul au golf. Il a perdu son charme, il a perdu son identité. On a perdu un pauvre, on n'a pas gagné un riche.
Si à moi, en pauvre, se dit Gouttière. Cette année, pour les vacances, Madame Riche a confié Pénélope à Madame Pauvre. Pénélope est une superbe chatte siamoise, un peu distante. Madame Pauvre a un vieux Gouttière appelé Pompon. Au début, pour montrer qu'il est chez lui, Pompon a un peu grondé. Pénélope est restée terrée sous un fauteuil et l'a snobée. Au moment du repas, Madame Pauvre a fait deux gamelles. Des croquettes diététiques, minceurs, qui viennent d'Amérique pour Pénélope et pour Pompon, les restes du repas familial. Pénélope n'a pas touché à ses croquettes, mais a rôdé autour de la gamelle de Pompon. Rapidement, ils se sont bien entendus. Grâce à Pénélope, le vieux Pompon a retrouvé ses ardeurs de jeunesse.
À son retour, Madame Riche a trouvé Pénélope complètement transformée. Elle qui était toujours impeccable est maintenant hirsute et sale, et elle a une oreille fendue. Elle qui était très distinguée fait maintenant populaire. Elle a pris de mauvaises habitudes. Elle fait ses griffes sur les tapisseries des fauteuils du salon. Plus grave, elle ne touche plus à ses croquettes. Elle n'obéit plus à Madame Riche et semble devenue sauvage. En revanche, chaque fois que Madame Pauvre vient faire le ménage, Pénélope lui fait la fête et se frotte à ses jambes. Madame Riche en est meurtrie, mais elle a vite compris. Hier, elle a surpris Madame Pauvre sortant de sa poche un petit sac de papier qu'elle a ouvert et qu'elle a posé par terre. Pénélope s'est jetée dessus et a tout mangé. Indignée, Madame Riche a senti qu'elle devait rapidement mettre le holà. Elle a convoqué Madame Pauvre et lui a parlé gravement. « J'ai surpris votre manège, Rose. »« Rose, je sais maintenant pourquoi Pénélope ne mange plus ses croquettes. »« Mettez-vous dans la tête que Pénélope n'est pas votre chatte, mais la mienne. » Madame Pauvre n'a pas répondu. Elle a baissé la tête, penaude. « Il y a quelque chose de bien plus grave que Madame Riche ne sait pas encore. » Madame Pauvre se demande comment le lui annoncer. Pénélope est en cloque. Cadeau en pauvre se dit rarement. Chaque début d'année, Madame Riche a l'habitude de faire à Madame Pauvre un cadeau. Elle trouve ça plus sympathique que des étrennes. Madame Pauvre garde précieusement tous ses cadeaux dans l'armoire à glace de sa chambre. Ils remplissent une étagère. Ils sont encore dans leur emballage. Madame Pauvre n'ose pas s'en servir. De toute façon, ils ne servent à rien. Il y a là une garniture de bureau avec un sous-main en cuir, une paire de serre-livres avec des panthères en bronze, une douzaine de porte-couteaux en cristal dans leur écrin, une pochette du soir en satin noir avec du strass. Cette année, Madame Pauvre a reçu une trousse à bijoux de voyage. Madame Riche lui a expliqué que c'est très pratique quand on part en voyage et qu'on ne veut pas s'encombrer d'un coffret à bijoux. Madame Pauvre, qui n'a pas de bijoux et ne part jamais en voyage, a été très contente et très fière. Elle a même embrassé Madame Riche. La trousse est en cuir noir, très souple. L'intérieur est doublé de satin cramoisi. Il y a plein de petites poches. Dans l'une, il y a une surprise, une carte gravée, adressée à Madame Riche, avec les vœux de la Barclays Bank.
Nouveau riche, en pauvre, se dit fils de pauvre. Le nouveau riche est friand de l'adjectif qualificatif « nouveau ». Il adore tout ce qui est nouveau. À David Oistrakh, il préfère André Rieu. À Jean-Sébastien Barre, il préfère Jean-Michel Jarre. Monsieur et Madame Nouveau-Riche adorent les nouveaux amis. Ils n'en ont pas d'anciens. Les nouveaux, c'est plus facile à épater. Madame Nouveau-Riche adore les meubles d'époque, surtout quand ils sont neufs. Elle ne supporterait pas de s'asseoir sur une chaise ancienne. Elle pense avec horreur à tous les pauvres qui ont pu s'y poser. Comme le Beaujolais nouveau, le Nouveau-Riche vieillit mal. Madame Nouveau-Riche essaie de faire rentrer sa vieille peau dans la peau du pantalon moulant en agneau glacé qu'elle met pour faire jeune. Pour sa leçon d'équitation, elle enfile, avec peine, une culotte de cheval par-dessus sa culotte de cheval. Malgré les liftages, les ponçages, les cirages, les bronzages, les maquillages et les teintures, Madame Nouveau-Riche vieillit. Elle ressemble de plus en plus à une momie. Elle devient méchante, comme la reine de Blanche-Neige, le jour où son miroir lui a dit « Majesté, vous êtes belle, mais Blanche-Neige !» Quand Madame Nouveau-Riche devient vieille, Monsieur Nouveau-Riche la jette et il épouse Blanche-Neige. Pieds nus, en pauvre, se dit « va nu pied ». On est dimanche. Monsieur Pauvre est assis sur une chaise, au milieu de la cuisine, en maillot de corps, le pantalon retroussé jusqu'au genou. Penché sur l'eau grise d'une cuvette en zinc, il regarde ses pieds. Monsieur Riche sort de sa cabine de balnéothérapie en peignoir blanc. Il s'assoit sur un tabouret en acier brossé, se penche et regarde ses pieds avec affection. Monsieur Pauvre sort ses pieds de la cuvette, les égoutte, puis il les essuie avec un torchon, comme on essuie des pommes de terre. Ses pieds ne sont pas très beaux. On dirait des topinambours. Ils sont couverts de protubérances, des oignons, des cordes et du rillon. Même un œil de perdrix qui le nargue, il les cache vite dans ses charentaises. Tout cela à cause des mauvaises chaussures qu'il a eues quand il était gosse. Ses parents n'avaient pas d'argent pour lui en acheter des neuves. Il a dû marcher avec celles de son grand frère. Et surtout, il s'est fait marcher sur les pieds trop longtemps. Monsieur Riche caresse ses jolis pieds de pianiste. Il pianote avec ses orteils, les mettant en éventail. Il revoit ses petits petons que sa jolie maman embrassait et voulait croquer. 50 ans après, ils sont encore appétissants. Monsieur Riche les lave tous les jours. Puis, il les masse avec une crème adoucissante aux algues marines. Il les regarde avec reconnaissance et il leur parle. Il les félicite pour tout le chemin parcouru. Il pense à tous ceux qu'ils ont piétinés, à tous les coups de pied au cul qu'ils ont donnés et qui lui permettent d'être à la place qu'il occupe maintenant. Il leur choisit avec amour des chaussettes, des fines en fil d'Écosse pour l'été et d'autres en pure laine vierge pour l'hiver. Monsieur Pauvre change rarement de chaussettes. Il attend qu'elles tiennent debout. Monsieur Pauvre ne s'occupe pas beaucoup de ses pieds. Il les lave seulement le dimanche. Il ne leur parle jamais. Monsieur Riche n'a qu'un seul souci avec ses pieds, c'est au niveau des chevilles. Depuis qu'il est coté en bourse, il a les chevilles qui enflent. Grand cru, en pauvre, se dit gros rouge. Monsieur Riche lève son verre. C'est l'élévation. Il le fait tourner dans la lumière, il dit « la robe est belle » et il boit. Quand Monsieur Riche boit un verre de vin, tout le monde se tait et attend. Après avoir reposé son verre, dans un silence religieux, Monsieur Riche prononce alors des mots et des phrases étranges. « Boisé, astringent, une belle finale vanillée, souple et rond, pourpre gras, de bel effet, de belles jambes dans les verres, le nez est très végétal, une attaque pleine qui promet, un nez de paille. D'où vient cet arôme de musc ? Personne ne rigole. » Toute l'assistance reste un moment silencieuse et inquiète, comme après la lecture d'un poème de Mallarmé, quand on n'a rien compris. Quand Monsieur Pauvre a sifflé son verre de vin, il s'essuie la bouche d'un revers de main et dit simplement à René « La même chose, René !» Et René lui sert la même chose. Monsieur Pauvre boit pour oublier, oublier qu'il est pauvre. Il cherche au fond du verre l'infini. Monsieur Riche, l'infini, il ne connaît pas. Il préfère le fini. Heureux événement, en pauvre, se dit Polichinelle dans le tiroir. Normalement, Monsieur Riche fait l'amour avec Madame Riche, tandis que Monsieur Pauvre fait l'amour avec Madame Pauvre. Madame Riche a parfois un coup de chaud pour Monsieur Pauvre, surtout quand il est jeune, beau et qu'il a des gros biscottos. Monsieur Pauvre a bien vu les sourires de Madame Riche, mais il ne peut pas croire qu'ils sont pour lui. Madame Riche, ce serait un trop beau cadeau. Rien que l'emballage l'impressionne. Avec ses dentelles et ses petits boutons pression précieux, il n'ose pas l'ouvrir. Il n'y arrive pas avec ses gros doigts. Madame Riche l'aide et la voilà nue devant Monsieur Pauvre. Il n'ose pas la toucher. Il n'ose pas promener ses doigts sales sur le corps d'albâtre de Madame Riche. Monsieur Pauvre a peur de se déshabiller. Il a des trous à ses chaussettes. Madame Riche l'encourage. Elle découvre qu'il est fait comme son mari, mais en mieux. Elle souhaite un vrai rapprochement entre les riches et les pauvres. Madame Riche fait du social. Quand il croise une mademoiselle pauvre très jolie et très triste, Monsieur Riche aussi veut faire du social. Mademoiselle pauvre n'ose pas se déshabiller. Elle se trouve trop maigre. Elle a honte de montrer sa lingerie défraîchie, où les petites roses brodées sont devenues blanches. Monsieur Riche est très ému. Surtout quand Mademoiselle Pauvre, qui finalement s'est déshabillée, apparaît dans sa blancheur nacrée, belle comme une endive fraîchement cueillie. Monsieur Riche, prêt à tout, lui dit qu'il l'aime. Elle le croit et il écarte les feuilles pour voir son cœur. Bientôt, Mademoiselle Pauvre grossit. Son vieux père impotent et aveugle ne le voit pas, mais on lui dit. Alors, il la chasse de la maison. Quelques mois plus tard, Le polichinelle que Monsieur Riche a mis dans le tiroir de Mademoiselle Pauvre sort. Il pleure. Mademoiselle Pauvre pleure aussi. Monsieur Riche est retourné avec Madame Riche. Elle est toute seule avec son polichinelle. Elle l'a appelé Richard, en souvenir de Monsieur Riche. Cachemire se dit acrylique. La mite, qui est plus raffinée que la mouche, préfère les riches. La mite est très maniaque pour son alimentation. Pour cette raison, elle ne va jamais manger chez les pauvres. Pas question pour elle de se nourrir avec du synthétique ou de l'acrylique. La mite ne supporte pas le chimique. Elle ne veut, pour elle et ses enfants, que du naturel et du bio. La laine qu'elle mange doit être, comme son huile d'olive, vierge. Elle passe de délicieux moments dans les commodes des riches. Elle se goinfre de poils de chameau, de Shetland, de mérinos, de cachemire, de mohair, d'alpaga, d'angora. Quand elle est repue, elle va faire la sieste sur les soies sauvages et les fines toiles de batiste des corsages de Madame Riche. Quand Madame Riche découvre dans sa commode les dégâts, elle est très contrariée. Elle remplit un carton avec les vêtements troués. Elle les donnera à Madame Pauvre pour Noël. En pauvre, Fauchon se dit aide. Madame Pauvre est arrivée en nage à la caisse. Son caddie est lourd. En plus, il a une roue voilée. Il avance en crabe. Elle pose sur le tapis roulant 10 bouteilles de soda sucré pour les enfants. 10 packs de bière pour son mari et les boîtes de raviolis, de cassoulet et de choucroute, plus les boîtes de maquereau, vin blanc et 5 pizzas surgelées. Madame Pauvre n'a pas beaucoup de temps pour faire la cuisine. Au rayon boucherie, elle a pris une barquette avec 20 côtes de porc et 1 kilo de pâté de campagne. Elle a choisi le vin en promo. Il s'appelle le Vieux Fagot. Il a été élevé dans des caves séculaires et fait 12,5 degrés. Avec ses 10 bouteilles, elle a eu une bouteille gratuite. Pour leur anniversaire de mariage, elle a fait une petite folie. Elle a acheté pour elle et son mari du surimi goût crabe et une bouteille de mousseux, blanc de blanc. En sortant, elle achète mes plus beaux poèmes d'amour en livre de poche. Madame Riche virevolte au milieu des rayons avec son agenda électronique. Elle prend des jus de fruits fraîchement pressés. Elle choisit un petit gigot de pré-salé, des girolles, des magrets de canard, des figues fraîches, un pot de gelée de coin et un sorbet à la lavande. Elle ajoute aussi des œufs de saumon et une bouteille d'aquavit. Quand Madame Riche quitte le magasin, un vendeur l'accompagne pour porter ses paquets. Et le patron lui demande des nouvelles de Richard, qui fait ses études à Boston. Madame Pauvre regagne seule le parking avec son caddie, qui déborde et marche en crabe. Personne ne lui a demandé des nouvelles de ses enfants. Madame Riche fait ses courses chez Fauchon. Madame Pauvre fait ses commissions chez Ed. En pauvre, cahier du cinéma se dit Télé-Z. Ce soir, chez Monsieur et Madame Pauvre, c'est soirée télévision. Hier aussi, c'était soirée télévision. Demain, ce sera encore soirée télévision. Chez Monsieur et Madame Pauvre, c'est soirée télévision tous les soirs. Avec la reproduction, la télévision est leur seule distraction. Maintenant qu'ils ont 5 enfants, Madame Pauvre freine un peu sur la reproduction. Chez Monsieur et Madame Pauvre, la télévision est allumée toute la journée. Ça fait une compagnie.
Monsieur Pauvre dit que s'il paie la redevance, ce n'est pas pour des prunes. Tous les soirs, Monsieur Pauvre s'installe dans le grand fauteuil en sky, avec une petite table à côté, où il met son cendrier et ses canettes de bière. Monsieur Pauvre aime la télévision, elle le rassure. Même quand on est con, on peut gagner des millions. Madame Pauvre s'assoit un peu derrière, avec son paquet de biscuits sur les genoux et une chaise pour poser ses jambes. Elle n'a pas une bonne circulation et elle a peur d'avoir des varices. Les enfants sont vautrés sur le canapé avec le chien qui ronfle. Il y a 100 ans, leurs ancêtres étaient devant la cheminée et regardaient le feu. L'avantage de la télévision, c'est qu'elle ne fait pas de cendre et que le matin, on n'est pas obligé de la vider. Si elle laisse des saletés, c'est seulement à l'intérieur de la tête de ceux qui la regardent. Ce soir, à la télévision, c'est soirée caritative. Madame Pauvre aime bien tous ces jolis jeunes gens en smoking et ces jolies jeunes filles en robe longue, pas fières du tout, qui demandent de l'argent pour des gens malheureux ou malades. Madame Pauvre est souvent émue à la télévision. Elle se cache derrière son mouchoir pour pleurer. Madame Pauvre croit tout ce qu'on dit dans le poste. Elle croit que le présentateur qui lui fait les yeux doux l'aime beaucoup. Elle ne sait pas que les animateurs de la télévision sont choisis justement pour leur talent à bien savoir faire semblant. À la fin de l'émission, Madame Pauvre a téléphoné pour donner de l'argent. Ce soir, Monsieur et Madame Riche étaient invités par le Rotary Club à la projection en avant-première d'un film iranien sur la famine. Madame Riche a beaucoup pleuré. Monsieur Riche a beaucoup dormi. À force d'entendre parler de faim, ça leur a donné faim. Au retour, ils ont fait un petit dîner avec du foie gras et une demi-bouteille de champagne.
Espérer, en pauvre, se dit attendre. Ce matin, Madame Pauvre a repassé la chemise blanche de Monsieur Pauvre. Monsieur Pauvre a rendez-vous avec Monsieur Riche pour du travail. Il s'est mis en dimanche. Monsieur Pauvre est arrivé près d'une heure en avance. Il ne s'agit pas de faire attendre Monsieur Riche. Monsieur Pauvre attend. Monsieur Pauvre attend partout. Il attend à la Sécurité sociale. Il attend au bureau d'aide sociale. Il attend à l'hôpital. Il attend à l'agence pour l'emploi. Il attend son SMIC. Il attend ses allocations. Habitué à attendre, Monsieur Pauvre prend son mal en patience. Personne ne l'attend. Dans les salles d'attente, il ne s'ennuie pas. Il regarde autour de lui. Il écoute. Il guette le numéro d'appel qui clignote. Il essaie de deviner la prochaine personne qui va se lever. Il est content quand il a deviné juste. Parfois, il se penche sur le carrelage et il compte le nombre de carreaux sur le sol. Quand c'est son tour, il apprend que son dossier est en attente. Monsieur Pauvre attend sa retraite. Puis, après sa retraite, il attendra que ça passe. Il ne se révolte pas. Il est résigné. Pourquoi les salles d'attente sont-elles remplies de pauvres, jamais de riches? Monsieur Riche n'a pas le temps d'attendre, parce que tout le monde l'attend. Il lui faut tout, tout de suite. Quand il regarde sa grosse montre en argent, Monsieur Riche vérifie que le temps, c'est de l'argent. Quand il regarde son tarif horaire sur sa fiche de paye, Monsieur Pauvre voit que son temps, ce n'est pas beaucoup d'argent. Du temps, il en a à revendre, mais son temps ne vaut rien. Ce n'est pas grave s'il le perd à attendre. À la fin de la journée, on prévient Monsieur Pauvre que Monsieur Riche a un empêchement. Il ne viendra pas. Monsieur Pauvre dit que ce n'est rien, il reviendra. Il a le temps, personne ne l'attend. Poulet de Bresse, en pauvre, se dit poulet aux hormones. Le poulet des riches chante au lever du jour. Tous les matins, une brave fermière l'appelle.
Petit, 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 en lui tendant une main pleine de grains. Il fait de la gymnastique, il est musclé, il est heureux. Le poulet des pauvres ne chante pas au lever du jour. Il n'a pas de raison de chanter, il ne voit jamais le jour se lever. Il est parqué dans un énorme poulailler sans air, avec des milliers d'autres malheureux. Il n'a aucune intimité, pas moyen de s'isoler, même pas un petit coin toilette. Pas une lampe de chevet qu'on peut éteindre pour dormir, seulement des gros projecteurs au plafond, allumés jour et nuit. Pas de fenêtre, il ne voit jamais le jour. La campagne, il ne sait même pas ce que c'est, il ne connaît même pas sa mère. Il est arrivé en neuf et en camion, avec des milliers d'autres. On ne lui parle jamais. On ne lui a jamais dit « petit, petit, petit ». Parfois, il regarde ses pattes tristement. Elles ne servent à rien. Il ne peut pas se déplacer. Il y a trop de monde. Il regarde ses ailes. Elles ne serviront jamais. Il n'y a plus de ciel. Il était pourtant bâti pour courir, dénicher des vers de terre avec son bec, volter. Quel gâchis! Et le pire, c'est qu'il sait qu'un jour, ça va se terminer mal. Un aspirateur à poulet va l'expédier dans l'au-delà. Il ne sait pas quand. Il attend, anxieux, sa fin du monde. Il se souvient encore de l'impatience avec laquelle il a cassé la coquille. S'il avait su, il ne serait pas venu. Il ne serait jamais sorti de l'œuf. Il regrette de ne pas être né dans la Bresse. Il a envie de se venger. Il n'a trouvé qu'un moyen. Il est dégueulasse à bouffer. Demandez aux pauvres. Monsieur Riche adore les pronoms personnels de la première personne, parce qu'il est la première personne.
Madame Riche aime le mode impératif. Quand elle l'utilise, on lui répond « Oui, madame !» et on s'incline respectueusement.
Monsieur Pauvre vit dans le présent, parce que son futur est sombre.
Madame Pauvre se demande pourquoi on dit « pauvre con », jamais « riche con ».
Monsieur Nouveau Riche place l'adverbe de quantité « sans » devant « scrupule »,« remords »,« partage »,« état d'âme ».
Madame Nouveau-Riche ignore le pronom indéfini « autrui ». Elle passe devant lui sans lui demander pardon.
Monsieur et Madame Riche vous prient de bien vouloir les excuser de prendre congé.
Monsieur et Madame Nouveau-Riche vous disent « au plaisir ».
Monsieur et Madame Pauvre vous disent « à la revoyure ».
Par Anne, Annie, Denise, Marie, Gabrielle, Armel et Phyllis. Les moments musicaux sont « Ah si j'étais riche » d'Ivan Rebroff, « Monet » de Pink Floyd, « Monet Monet » de ABBA, une chanson des Charlots et une autre chanson de Jean-Yann. À la technique, Vincent et Claude Michel que nous remercions. Si vous avez aimé ces textes, le style de Jean-Louis Fournier, vous pouvez le retrouver dans de nombreux ouvrages comme « Où on va, papa ?», prix Femina 2008, ou « La servante du Seigneur », son dernier titre sorti en août 2013. Au revoir, à une prochaine émission. Good, good, good bullshit. I'm in a-